de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 8 juin 1988.
Dans le cours du 2 juin, vous avez parlé de relations subsistantes dans la très sainte Trinité. Pourriez-vous montrer ce qu'elle est? C'est le mystère. Ça. Et si elle a un fondement philosophique, non, divin, la relation de raison. Et si elle a un fondement philosophique, la relation de raison, le fait qu'elle subsiste, est-il rattaché à Dieu seul? On pourrait en parler de relation subsistante entre deux êtres spirituels, amitié, contemplation. Quel est le lien avec la substance? Oui, attention. Je vous disais que le père Gérard des Lauriers, qui était un matheux, qui sa métaphysique était souvent une métamathématique, ce qui était très intéressant, mais alors qu'il avait une saveur un peu néoplatonicienne. Le père Gérard des Lauriers disait, avec la très sainte Trinité, il y a un nouveau type de relation, la relation subsistante. Vous comprenez que ce n'est pas tout à fait juste de dire ça. Nous nous servons de la relation pour mettre une toute petite lumière sur un mystère qui nous dépasse complètement. Le mystère de la très sainte Trinité, la seule intelligibilité que nous en avons, c'est la simplicité de Dieu. Le mystère de la fécondité de Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir. Mais, puisqu'il y a trois personnes dans l'unité, qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a donc des relations entre les personnes. Ces personnes ont une simplicité absolue. Puisque, de fait, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne s'ajoutent pas, ils sont dans l'unité. Ne projetons pas la famille dans la très sainte Trinité, en disant que le Fils vient compléter le Père, il a achevé, puisqu'il est le Fils. Donc il y a une progression, et puis l'Esprit Saint, c'est la complémentarité absolue. Vous comprenez que ça, ce serait une vision tout à fait humaine. Vous voyez, un père, je ne dis pas lequel, que je voyais à Paris le jour de la très sainte Trinité, qui m'a dit que le sermon du matin, c'était la projection de la famille sur la très sainte Trinité. Alors on parlait du Père, on parlait du Fils qui venait rajeunir la très sainte Trinité, et l'Esprit Saint qui mettait le lien merveilleux entre les trois. Vous voyez, c'est très tentant. On fait une psychologie de la famille, on l'applique à la très sainte Trinité. Mais ça, on n'a pas le droit. Parce que c'est humanisé, c'est une vision anthropologique de la très sainte Trinité. L'anthropomorphisme, si vous voulez. Non. Il faut accepter que c'est un mystère qui nous dépasse complètement et que seule la relation nous permet, on va voir ça du reste, de dire quelque chose. Mais relation subsistante, vous ne pouvez pas la penser, vous l'affirmez. Vous n'arrivez pas à la penser, vous penseriez Dieu. Vous n'avez pas de concept de Dieu, bien qu'on dise tout le temps qu'on a un concept. Encore l'autre jour, on le disait, votre concept de Dieu est modifié. Mais non, vous n'avez pas de concept de Dieu. Il faut l'accepter. Tant que vous maintenez un concept de Dieu, vous favorisez en vous, vous favorisez l'athéisme, c'est très curieux. Parce que vous n'allez pas jusqu'au bout de la transcendance. Vous pouvez affirmer l'existence de Dieu, mais vous ne pouvez pas concevoir Dieu. Le concept de Dieu, ça, on voit très bien ce qu'on veut dire, tout le monde l'emploie, mais je crois qu'il faut être un peu farouche. Moi, j'aimerais qu'on l'emploie plus. Et qu'on dise tout simplement qu'on affirme l'existence de Dieu. Et on ne conçoit pas Dieu. On ne peut pas le concevoir. Sartre a dit très justement, le concept de Dieu est contradictoire. In terminis. Mais on conçoit l'être, mais on ne conçoit pas Dieu. On peut avoir un concept de l'acte d'être, mais on ne peut pas avoir un concept de Dieu. Puisque l'acte d'être n'est pas Dieu. Dieu transcende absolument. Et c'est dans cette transcendance de la simplicité de Dieu qu'on affirme qu'il y a trois personnes en Dieu. Mais c'est une affirmation toute gratuite, comprenez bien, hein, toute gratuite dans la foi, toute gratuite par rapport à nos concepts. C'est le mystère de la gratuité de la révélation. Mais gratuité dans le sens... C'est ce qu'il y a de plus nécessaire. Il faut tout de suite dire ça. C'est ce qu'il y a de plus nécessaire. C'est du supra-nécessaire. C'est pas gratuit dans le sens où je l'invente seul, ça y est. Non. C'est gratuit dans le sens de l'amour. Et c'est ça qui est merveilleux. On contemple la très sainte Trinité. On l'adore. Et on reste dans le silence. Surtout pas appliquer la dialectique à la très sainte Trinité. Donc, comprenons bien que je ne peux pas me servir de cette affirmation, la relation subsistance en Dieu, pour expliquer la créature. Non, non, ce serait très faux, ça. On va voir ça mieux, mais c'est bien comme objection. C'est très juste. Pouvez-vous revenir sur ce que vous avez dit au sujet de la dialectique ? Que notre affectivité est impliquée dans la dialectique. J'y reviendrai. Pas maintenant. Je vais tout de suite entrer parce que nous n'avons plus tellement de temps. Et je voudrais quand même terminer ce grand aspect de la relation. Nous avons vu dans cette topic les deux extrêmes de notre pensée occidentale. Ça, je voudrais que vous le compreniez. Parce que je crois ça très important. Une philosophie de la substance assume la relation. Une philosophie de la relation rejette la substance. Mettez-vous ça dans la tête et pensez-y souvent, philosophiquement parlant. Et ça, c'est un fait. On constate ça. Et ça, c'est important. Quand je veux savoir qu'est-ce que c'est que le relatif au plan philosophique, je constate tout de suite ça. Et je dis que là, je suis en face... de quelque chose d'assez impressionnant. Une philosophie de la substance telle que celle d'Aristote, telle que celle de Platon, n'oubliez jamais ça, hein, qu'il y a deux philosophes de la substance, Platon et Aristote. Ne dites pas seulement Aristote. La grande philosophie néo-platonicienne est une philosophie de la substance. Ces deux philosophies acceptent la relation. Mais la différence entre Platon et Aristote, c'est que pour Platon, il y a un au-delà de la substance, il y a un au-delà de l'être, qui est le bien et là. Pour Aristote, au cœur de l'être, c'est la substance. Mais ce qu'il voudrait mettre, la substance, le cœur de la métaphysique, et l'acte, le sommet de la métaphysique. Et à côté de la philosophie de la substance, il y a la relation, le relatif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce relatif qui arrive par sa fragilité, sa débilité, à faire sauter la substance? Comment le relatif peut-il être malgré sa si grande fragilité, faire dynamiser en quelque sorte, faire sauter la substance. Très curieux, ça. La qualité peut nous faire oublier la substance. Heidegger. Je crois que ça, c'est la philosophie de Heidegger. C'est la philosophie de la qualité. Comme, au fond, toutes les grandes philosophies de l'art. Bergson. Sont des philosophies de la qualité. C'est très respectable. Mais la qualité fait oublier la substance. C'est pas étonnant, vous voyez. L'art nous fait oublier la substance. Parce que c'est la manifestation de la qualité. Alors, on ne voit plus ce qui est caché. C'est ce qui apparaît. C'est ce qui est sur la scène, ce qui apparaît, qui fait oublier le cœur, quelque chose de profond, de plus profond. Mais la relation a cette capacité de faire sauter la substance. Ça, il faut le comprendre, il faut le saisir au plan philosophique. Et je dirais la constatation de la topique a cet immense avantage de me faire comprendre ça. Et de me faire comprendre que, de fait, c'est à partir du primat de la pensée sur l'être que la relation prend le pas sur la substance. Descartes, Malebranche. C'est au moment où la pensée passe devant l'être que la relation va prendre le pas sur la substance. Ça, c'est très très important. Je crois que, vous voyez, s'il y avait à nous donner le sens de notre philosophie occidentale, c'est ça qu'on devrait développer. Et ça, alors, je crois que ça nous donne toute la trame du développement de notre philosophie occidentale. Ensuite, il faut regarder les petites dentelles. Mais c'est ça l'important. Et avec la pensée, au-delà de l'être, c'est la négation qui prime. C'est très curieux. Quand vous mettez la pensée avant l'être, vous mettez la négation avant l'affirmation. Qu'est-ce qui sauvegarde l'affirmation, la primauté de l'affirmation? C'est la primauté de l'être sur la pensée. Qu'est-ce qui nous fait affirmer la négation avant l'affirmation? C'est le primat de la pensée sur l'être. Tout ça se tient. Une fois que vous avez ça, vous comprenez ce qui se passe dans notre philosophie d'aujourd'hui. Et quand vous mettez le relatif avant la substance, vous assistez à la désagrégation de l'être. Et avec la désagrégation de l'être, c'est la désagrégation du bien, c'est la désagrégation de l'éthique. Ça, en quelque sorte, se tient. Alors, qu'est-ce que c'est que le relatif? Pour avoir cette puissance dynamique, extraordinaire, que seul le relatif a. Je reprends tout. Je pars de l'expérience. Et je prends deux expériences, ou trois expériences extrêmes, sur lesquelles je vais réfléchir pour essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que le relatif au plan philosophique. Première expérience, la plus magistrale, l'amour d'amitié. L'amour d'amitié met l'ami relatif à l'ami. Comme c'est encombrant un ami. C'est terriblement encombrant. Vive la solitude. Parce que l'ami me met toujours relatif à l'ami. Un ami me déloge complètement. Et fait que je ne suis plus le maître chez moi. C'est embêtant. Il me déloge. Il vient habiter. Il vient habiter chez moi. Je ne suis plus seul. Je ne suis plus maître chez moi. Comprenons ça. Hein, pour essayer d'avoir cette expérience profonde de l'amour d'amitié. Ça me déloge. Je ne suis plus seul et maître. Mais c'est la destruction. C'est ça que je veux regarder. La destruction de celui qui se met comme un absolu. Je ne suis plus l'absolu. Il y a quelque chose en moi qui exige cet éclatement où je suis tout entier tourné vers l'autre. Et vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est une expérience très très forte. Alors je la vis au niveau, c'est vécu dans l'ordre de la vie. Mais ça va très loin. Ça me saisit dans tout ce que je suis, c'est-à-dire dans ma personne. Puisque l'ami, c'est personne vis-à-vis d'une personne, sans face à face. Et je suis toujours face à mon ami. Ça explique ces moments de révolte qu'il peut y avoir par rapport à l'ami. Parce qu'il est celui qui s'introduit au plus intime de moi-même. Si je n'aime pas, quand j'aime, c'est parfait, c'est merveilleux. Mais dès que l'intelligence l'emporte sur l'amour, c'est intolérable. Oui, dramatiser un tout petit peu, à titre d'expérience, hein. Il faut dramatiser, puisqu'au fond, l'amour d'amitié implique amour et connaissance. L'amour, très bien, c'est extatique. Donc l'amour me fait sortir de moi. Donc l'amour, je comprends très bien. Il y a une espèce de lien entre l'amour et le relatif. Puisque l'amour, c'est extatique. Ça me fait sortir de moi. Or, le relatif me fait sortir de moi. La relation d'amour, d'amitié me fait sortir de moi. C'est ça l'amour. Donc, vous voyez, j'aurais une tendance d'identifier relatif et amour. Peut-être, hein, peut-être, je pose la question. Est-ce que amour égale relation? Puisque c'est extase. Extase. C'est juste l'inverse de l'intase. La substance. Qu'est-ce qui s'oppose le plus à la substance? C'est l'amour qui me projette vers l'autre. Et quand je prends conscience de cela, dans la connaissance, je dis attention, ma personne me donne mon autonomie. Et mon autonomie, c'est ma source de liberté. Et voilà que l'ami me déloge dans ma liberté. Puisque je suis lié. Je ne peux plus prendre aucune décision sans mon ami. C'est terrible. C'est une aliénation la plus terrible qui soit. Je suis aliéné. Voilà ce que fait la connaissance. Soyons un tout petit peu lucides. Hein. Tout ça est vécu. Dans n'importe quelle expérience d'amour. Ça explique tous les divorces. Il y a une flambée d'amour extraordinaire. Et c'est affolant. Et le petit vieux garçon, qui est toujours un peu en nous, hein, qui est tranquille, qui a bien tout construit, bien construit. La bibliothèque, la cuisine, tout. Le lever, les pantoufles, le ski, tout est très bien établi. Puis voilà que, tout d'un coup, une intrusion de quelqu'un dans ma vie qui s'implante d'une manière telle qu'il veut tout prendre. L'ami prend tout. Et déloge tout, puisque c'est personne à personne. Et je vois bien que l'amour me met en dehors. Extasis. Alors qu'avant, le vieux garçon intase. Hein, je suis chez moi, je mets des verrous. Telle heure à telle heure, je ne reçois personne. Alors l'ami dit, je m'en fiche ça, moi j'ai le droit. Il n'y a pas de verrou pour la vie. Aucun. Je m'en fiche. Et même au contraire, je vais aux heures où il n'y a personne. C'est très bien, c'est agréable, le petit matin. Mais quand ça se répète, quand même, hein, alors plus rien. Vous voyez, cette espèce de révolte profonde de la personne humaine dans son autonomie. L'autonomie. L'aliénation. Hein. Je suis aliéné par la vie. Il y a ça qu'il faut saisir dans l'expérience de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié me donne une expérience de ce que c'est que la relation. Et une relation qui va très loin. La tentation de dire que cette relation est subsistante. Vous voyez ce qui est mis là sur le petit papier. Cette relation est subsistante, puisqu'elle me prend. Non, c'est une relation personnelle. Ben, si elle est personnelle et subsistante. Non, elle est au niveau de la vie. Mais c'est vrai, elle est au niveau de l'amour. Elle me prend entièrement. Dès que je mets une petite exclusion, à dire, ah non, là, c'est la cave, tu n'entreras pas, parce qu'il y a du bon vin. Tu n'entreras pas, là. Là, il y a un secret. Dès qu'on dit ça, c'est plus l'amour d'amitié. C'est exclusif. Là, vous faites des réserves, et vous tuez l'amour. Dès que vous commencez à mettre une réserve, vous tuez l'amour. On dit, ah non. Donc ça va très loin, vous voyez. Ça touche quelque chose de très fondamental. C'est vrai qu'il y a un certain drame, j'allais presque dire métaphysique, entre l'autonomie de la personne et le phénomène de l'extase de l'amour d'amitié, qui fait que tout est porté vers l'autre. Donc, saisissons bien ça. Parce que là, je vois à l'intérieur de mon être, dans le vécu, je suis au niveau de la description. Dans le vécu de mon être, je vois deux choses totalement différentes qui n'ont pas possibilité de s'allier. L'autonomie personnelle que j'ai acquise, j'ai mis de la peine à l'acquérir, et je l'acquis grâce à ma connaissance. La connaissance me donne l'autonomie. Et voilà que, brutalement, l'amour fait intrusion et l'amour me déloge complètement. Et si je suis, j'allais dire, logique avec mon amour, cet amour me fait sortir de moi et prend tout. Je sais que je ne peux pas naître de cloisonnement, alors que j'avais construit un très bon cloisonnement dans mon autonomie. J'avais mis des cloisonnements étonnants. J'avais dit, là, personne n'y pénétrera. Je suis seul. Je suis monastique, là. Le moine. Vous savez, le moine, il est foncier en nous. C'est la vie. On est seul, seul avec Dieu. Et l'aspect religieux me sauve. Je sais que personne ne me délogera. Il y a un secret. Il y a quelque chose d'absolument secret. Puis voilà que l'amour semble tout changer. Donc je saisis à l'intérieur de mon être et de ma personne, dans le vécu, je saisis ces deux aspects. Cette force extatique, brutale, violente, qui veut tout, et qui demeure cependant toujours en moi, cet aspect monastique. Comment expliquer ça? Première expérience. Deuxième expérience. C'est toujours l'expérience du relatif. La philosophie part de l'expérience. Il ne faut pas spéculer trop sur le relatif. Il faut le vivre. Il faut l'expérience du relatif. Et la puissance du relatif. Puisque je constate que le relatif, l'être le plus débile, me dit Aristote, l'être le plus débile, cet être le plus débile a délogé la substance. Alors est-ce qu'arrive la même chose chez moi? L'être le plus débile qui pénètre par l'œil de bœuf, par le sommet. Prends pas la porte. L'ami pénètre par l'œil de bœuf, dans mon cœur. Je sais pas comment il a pénétré. Il a pénétré comme ça. Tout d'un coup, coup de foudre. C'est l'œil de bœuf, pénétré par le grenier. Et il est entré, tout délogé. Alors j'ai plus de substance. Je deviens un être relatif. Et quelquefois j'en deviens malade. Il y a des gens qui étaient très stables. Puis par l'amitié, tout est fichu. Plus aucune stabilité. Ils travaillaient très bien, ils ne travaillent plus. Plus rien du tout. Comment ça se fait? Le relatif a pénétré et a tout pris. Et on dit qu'il y a ces petites bêtes dans certains endroits du monde qui, si on se jette dans l'eau, on est tout d'un coup envahi par une quantité de petites bêtes qui vous prend, qui vous saisissent au bout d'un certain temps. Il n'y a plus rien du tout. Le relatif, vous voyez, il arrive à tout bouffer, tout prendre. La substance, plus rien du tout. L'amour fait ça. Il faut constater ça. Il faut le voir, ça. Et l'amour, c'est réel. C'est pas fou. C'est pas imaginatif. Comment ça se fait? Alors que j'étais persuadé que la substance, c'est une source fondamentale, absolue, personne ne peut y toucher. Voilà que. Par l'œil de bœuf, par le grenier, une petite tuile qui n'était pas très agencée. Et puis c'est à pénétrer comme ça. J'ai pas fait attention. Je dis, oh non, non, moi je suis très stable, pas de danger, aucun danger. Puis tout d'un coup, là c'est pas une quantité de petites bêtes, une seule. L'amour a pénétré, tout pris. On voit ça. Et on l'a peut-être vécu. On l'a peut-être vécu, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le relatif. Et le relatif, quand il est vécu, il est identifié à l'amour. Le vécu du relatif, c'est l'amour. Ça, c'est très vrai. Et le vécu de la substance, c'est la connaissance. Tiens, c'est curieux, ça. C'est deux vécus qui sont en bois dans l'amour d'amitié, connaissance et amour, et perpétuellement, dans l'amour d'amitié, il y a une espèce de dilemme entre les deux. Je connais mon ami, et dans la mesure où je le connais, je le maîtrise. Je l'aime, je suis maîtrisé par lui, je suis dominé par lui. Amour et connaissance, ça lutte. Bon, deuxième expérience du relatif. Oh, c'est très vrai que la connaissance, c'est l'expérience, le vécu de la substance. Mais il y a autre chose dans la connaissance. Dans la connaissance apparaît l'universel. Et si j'étudie l'universel, je vois que l'universel, être de raison, relation de raison. Et je vois ça chez certains philosophes, l'être de raison, relation de raison. L'universel est-il vécu? Ah! L'universel, je peux en prendre conscience. Et une conscience réflexive très aiguë. C'est très curieux, l'universel. Est-ce que l'universel est du vécu? Je pose la question. Vous n'êtes jamais posé la question. Il faut ça poser. C'est la question qu'il faut poser aux psychanalystes. Alors ils ont des yeux extraordinaires. J'ai jamais pensé. J'ai fait l'expérience plusieurs fois. Ça m'a beaucoup amusé. C'est toujours amusant de prendre le psychanalyste en flagrant délit. Est-ce que c'était vécu? Ah, l'amour, c'est sûr. C'est le drame. Et l'universel. Est-ce que l'universel est vécu? J'ai conscience de connaître, mais l'universel. L'universel apparaît subitement. Quand j'essaie de comprendre, comme un miroir. Au plus intime de moi, quelque chose, j'allais presque dire d'inflexible. Et l'universel, c'est le nécessaire. L'universel n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, n'a pas de goût. Il est du non-vécu. C'est pour ça que les logiciens, et surtout la logique mathématique, aiment l'universel comme le seul donné absolument objectif. Et c'est vrai, l'universel est terriblement objectif. Il est froid. L'iceberg comporte en soi. Penser, l'universel est-il vécu? Si c'est vrai que l'universel est non vécu, ce que je crois, vous avez les cinq prédicats qui sont du non vécu et qui s'imposent. Mais la manière de regarder l'aspect de la phénoménologie, il y a quelque chose qui résiste au vécu. Ce serait peut-être, voyez, pour nous aujourd'hui, une manière très forte de regarder l'universel. Parce que c'est désagréable, non vécu. L'anticorps. Par rapport à la phénoménologie. Quelque chose qui s'impose. Et c'est vrai. Hein, parce que l'universel, il est pour vous, il est pour moi. Il est commun. C'est le commun. C'est vrai, vous ne pouvez pas dire animal, hein. C'est vécu. Non. C'est... On le respecte. On sait qu'il est là. On aime mieux qu'il dort. Et il est en vous, il est en moi. Il est dans toute l'espèce humaine. L'homme. L'humanité. Oh, c'est froid. On n'aime pas ça. C'est que le vécu individuel, le subjectif, c'est terriblement objectif. Dans toute sa froideur, l'universel. Et l'universel est une relation. Oh, alors quoi? J'ai dit que la relation est extasis, qu'elle est une extase. Et voilà que maintenant que je dis que la relation, c'est glacial. Je suis bien obligé d'accepter les deux. Le chaud et le froid. Le cuit et le cru. J'ai les deux en moi. Je suis obligé de reconnaître que quand je pense, et si je réfléchis sur ma manière de penser, l'universel apparaît. Et je suis bien obligé de reconnaître que quand j'aime et que je vais jusqu'au bout de l'amour, la relation prend tout. Très drôle, ça. Vous voyez, saisissez le vécu de la relation par l'amour, saisissez le non-vécu de la relation par l'universel. Le non-vécu. Donc, le corps étranger, puisque c'est ça le non-vécu, c'est le corps étranger. Le corps étranger qui pénètre au plus intime de ma vie intellectuelle, alors que je croyais que ma vie intellectuelle me sauvegardait dans mon autonomie. C'est vrai. Ma vie intellectuelle me donne de l'autonomie. Je saisis la substance. Voilà que je saisis qu'au cœur même de ma vie intellectuelle, il y a un corps étranger, universel, l'objectif. Objectif, c'est pas moi. C'est pas moi subjectif. Et l'objectif, l'universel, arrive. La logique. La logique, c'est froid. Un logicien. Vous avez déjà vu un pur logicien? C'est terrible. C'est effrayant. Un pur logicien. Occam. Quand on verra Occam dans le ciel. Oh là 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 là. On se mettra très loin. pas envie du tout de dialoguer avec vous. Au ciel, la charité l'emportera. Alors, il y aura une extase dans aucun logicien. Je sais pas comment ça se fera. Embrasser la logique. La logique. Quelque chose qui s'impose comme le pur objectif. Et le pur objectif est commun à tous. Pas de frontières. L'universel sans frontières. L'universel générique. L'universel, les cinq. Ce qu'il y en a bon, c'est qu'il y en a cinq. Pour tout envahir. Il n'y a jamais un seul universel, sont tout de suite cinq. Tentacules multiples. Ça vous saisit comme ça. Les cinq prédicats. Qui vous font tout de suite comprendre les cinq facettes de l'objectif. Ça donne froid dans le dos, vous savez, l'universel. Et c'est une relation. Alors que je croyais que la relation extasis, ou la relation, ce qu'il y avait de plus personnel en moi, voilà que voilà, c'est du non-vécu. Et ça, c'est la relation. Alors, je sais bien, c'est la relation de raison. Oui, oui, mais c'est la relation quand même. Alors, puis-je mettre une troisième expérience? C'est intéressant de voir ces expériences diamétralement opposées. Mais d'une certaine manière, l'universel, puisqu'il est du non-vécu, est au-delà de l'expérience. Est-ce que vous expérimentez l'universel? Est-ce que vous pouvez dire vous expérimentez l'universel? Non. Vous le constatez. Vous le constatez. Mais jugement d'existence, non, il n'existe pas. Or, le jugement d'existence est présent à toutes mes expériences. Donc il n'y a pas d'expérience universelle. Vous voyez, il n'y a pas. C'est du non-vécu. C'est du non-expérience. Alors c'est quoi ? C'est objectif. Ça s'impose. C'est curieux. On se casse la tête dessus. En tant qu'individu, en tant que subjectif, on est en présence de quelque chose. Un être glacial. L'objectif pur, c'est un être glacial. Il y en a qui se délectent de ça. Comme ceux qui se délectent de la glace. Mais c'est du non-vécu. C'est curieux. Je le constate. Il y a l'universel. Tiens, tiens. L'universel est donné. Hein, le datour. Le esgipt. Le datour. L'universel est donné. C'est un fait. Ah, c'est pour le juriste. Il est donné. Mais il faut toucher ça. Et dans le datour, dans il y a cet être, c'est la relation. J'allais dire à l'état pur. Là où le jugement d'existence s'arrête, la relation domine. La limite du jugement d'existence, c'est la limite du vécu. C'est la limite de l'amour. C'est la limite du subjectif. Je me suis toujours beaucoup étonné pourquoi la logique avait une telle séduction. Il faut rencontrer des êtres purement logiques. C'est terrible, moi, ça me glace. Mais pourquoi la logique a-t-elle une telle séduction? Parce que c'est du pur objectif. Là, le jugement d'existence ne pénètre pas. Vous êtes en face d'un certain absolu, qui est l'absolu de la relation. Alors c'est curieux, hein, parce que la relation apparaît comme totalement dépendant d'un autre, et vous dites l'absolu de la relation. Oui, c'est la pureté. Le relatif, dans toute sa pureté, c'est l'universel. Alors vous dites l'absolu. Oui. Saint Thomas parle de la substance du relatif. Aristote parle de l'ousia du relatif. Donc il y a certains absolus. Cet être extrêmement débile prend une revanche extraordinaire dans l'être de raison, dans la relation de raison. Oui.
Est-ce que ce n'est pas parce que, en logique, justement, les liens de nécessité sont les plus manifestes pour l'intelligence ?
Oui, c'est pour ça. C'est parce que je suis devant un être qui ne peut pas m'attaquer. Ah ! C'est pour ça que ça me séduit. L'ami me séduit, puis après j'ai peur, il prend tout. La petite bête qui dévore tout. Comme c'est reposant l'universel. Il n'y a jamais de drame. Ah, jamais de drame. C'est impossible d'avoir un drame au niveau de l'universel. C'est de repos. Oh, c'est la douche d'eau froide. Hein. Mais qui est reposante. On est pourvu que ça dure. L'universel. On dira le ciel des principes, c'est pas du tout un principe, l'universel. C'est une relation pure.
Les prédicaments et les prédicables sont liés ?
Non, les prédicables, c'est utile, les prédicables, c'est pas les prédicaments.
Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux ?
Oui, mais les prédicables ne sont pas les prédicaments.
D'accord. Est-ce que...
Bon, si c'est d'accord, c'est suffisant. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jugement d'existence pour les prédicables. Les prédicables sont au-delà du jugement d'existence. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Autrement, ce ne serait pas une relation de raison. Et c'est ça que je veux que vous sentiez. Vous allez me dire, mais nécessaire, oui, génétiquement, mais c'est justement là où je ne veux pas. Le relatif, l'universel, s'impose par lui-même, comme une grande dame. Ça s'impose. Vous, vous cherchez la relation. Mais non, vous cherchez d'où ça vient. Maintenant, regardez l'universel en lui-même. Vous avez les cinq prédicables. Et c'est glacial. Mais, alors vous avez peur du glacial. Alors je dis, mais l'universel, il dépend du jugement d'existence. Là, vous le rattrapez, vous voyez, vous cherchez la trace. Non, il ne dépend pas du jugement d'existence.
La substance seconde, c'est le genre et l'espèce.
Oui, oui, oui.
Donc, est-ce que ce n'est pas deux parties des prédicats ?
Non. C'est la substance seconde. Et le prédicament, c'est la substance première. C'est bien évident que les prédicables sont dans les prédicaments. Mais j'utilise les prédicables dans les prédicaments. Mais les prédicaments ne sont pas les prédicables. Oui. Les prédicaments impliquent une signification. Et les prédicables n'en impliquent pas. La signification est toujours reliée au jugement d'existence. Et les prédicables, c'est glacial. Oh, il faut sentir les prédicables. C'est glacial, relation de raison. Hein ? C'est ce que c'est que la relation. C'est ça que je voudrais. Hein. Ça n'a plus de goût. Inodore, sans saveur. Glacial, l'objectif pur. L'objectif pur. Je prends exprès, oui. Je fais un tout petit peu, un petit drame, mais de temps en temps, il faut, pour la relation, il faut. Le drame joue pour la relation. Si vous n'avez pas joué un peu le drame philosophique, vous ne comprenez pas ce que c'est que la relation. Il faut comprendre, parce que la philosophie qui met en premier lieu la relation, c'est une philosophie dramatique. Nietzsche. La dialectique, c'est dramatique la dialectique. Alors, il y a une dialectique froide, il y a une dialectique dramatique. La la dialectique hegelienne, la dialectique nietzschéenne. Même si c'est la troisième expérience. Troisième expérience de la relation que vous avez dans l'activité artistique. L'art me donne aussi le sens relatif. Je vous ai dit, l'artiste, il crée des relations. Il crée des relations. C'est un grand artiste, un architecte architectonique. Il a le sens de toutes les relations. Vous vous souvenez de l'expérience que nous avons tous